Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle édition des Témoins de l'Invisible, édition dont l'invité n'est autre qu'Éric Zurcher, ufologue d'investigation et de réflexion. Le phénomène OVNI, à la fois élusif et ostentatoire, physique et psychique, nous oblige sans doute à reconsidérer notre vision consensuelle de la réalité, ce qui est autrement considérable que la simple question de savoir si les ovnis sont, oui ou non, d'origine extraterrestre. Éric Zurcher, vous avez publié plusieurs ouvrages très intéressants sur les objets volants non identifiés. Le dernier, Les apparitions mondiales d'humanoïdes, paru aux éditions Le Temps Présent, s'intéresse, comme son titre l'indique, aux récits de rencontres rapprochées d'ovnis faisant intervenir des personnages humanoïdes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une question marginale en ufologie, bien au contraire, on a le sentiment d'être au cœur du problème, de par finalement le nombre des cas à travers le monde, qui n'est pas négligeable, de par les invariants qui s'en dégagent, mais aussi, peut-être surtout, vous allez nous le dire, en raison des répercussions que ces rencontres ont eues sur la vie et le psychisme des témoins.
Alors oui, merci de votre accueil et de cette interview. Oui, je m'intéresse depuis un peu plus d'un demi-siècle même à ce sujet-là. Alors c'est vrai que ces cas sont intéressants, mais surtout ils sont porteurs d'informations. Voilà, c'est le fond de l'affaire. Les rencontres rapprochées représentent à peu près entre 10 et 13% de l'ensemble. Et dans les rencontres rapprochées, vous avez à peu près 3%, je suis peut-être un peu optimiste, de rencontres du troisième type, ce dont on parle.
Oui.
Voilà. Alors la grande différence, c'est que, je vous l'explique très rapidement, vous voyez passer un disque ou un objet ovoïde dans le ciel. Évidemment, ça va vous toucher énormément, ça va avoir un impact sur vous, mais sur un plan d'information, qu'est-ce que ça apporte exactement, sinon une certitude qu'il y a bien quelque chose qui se passe de temps en temps. Et ben pas grand-chose par rapport à une rencontre approchée, et encore moins par rapport à une RR3. Donc c'est pour cela que je me suis focalisé là-dessus il y a très très longtemps. Pour cette histoire d'information, il faut savoir qu'un chercheur dans le domaine ne pense qu'information, il pense pas autrement. Hein. Il faut peut-être définir ce que c'est que l'ufologie à la base.
Mais oui, je voulais même vous poser finalement ma première question, c'est parce que vous êtes historien de formation, comment vous en êtes venu, vous, à étudier les récits d'apparition d'OVNI, en fait ? Ça s'est passé comment ?
Oh, ben ça s'est passé parce que, bon, d'abord j'avais un père en Amérique centrale qui avait vu quelque chose, et puis moi-même j'ai vu quelque chose en 1975, et puis à partir de là, votre spécialisation, si vous voulez, dans la vie professionnelle ou pas, fait le reste. En fait, chacun creuse au fond de son puits, c'est assez simple, le physicien va interpréter ça en termes de physique, le psychologue va voir les aspects plus psychologiques de ses affaires, et l'historien travaille sur la profondeur historique, en tentant évidemment de serrer les cas sur le plan de la fiabilité, parce que c'est le gros problème. L'ufologie, c'est quoi ? C'est essentiellement du témoignage humain.
Oui.
Parfois additionné d'éléments plus objectifs que tout le monde connaît, bien sûr, mais c'est essentiellement du témoignage humain, au point que je parle d'interface humaine. C'est par cette interface humaine que l'on connaît l'existence de ce phénomène et qu'un certain nombre d'informations nous parvient sur un flot qui n'est pas constant d'ailleurs, selon les décennies, il est plus ou moins amplifié. Voilà. Donc, à partir du moment où vous coulez à pic pour travailler en profondeur, vous ne pensez plus qu'information et validité de l'information.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, l'ufologie, c'est quoi ?
Alors, l'ufologie, sur un plan très général, c'est l'intérêt pour ce sujet, pour ce phénomène, qui est souvent matiné de croyances, un niveau pur d'ailleurs, hein, la croyance a une fonction extraordinaire, c'est qu'elle se substante elle-même. À partir du moment où vous croyez, vous n'avez pas besoin ni de penser, ni de réfléchir, ni de faire de la recherche, ni la croyance suffit. Mais il n'y a pas que ça, il y a des gens qui s'intéressent d'une manière un petit peu plus rationnelle, entre guillemets, encore faudrait-il définir ce terme, au sujet. Et donc, c'est ce qu'on appelle les chercheurs, qui la plupart du temps sont anonymes et qui travaillent sur l'information. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire très très rapidement.
Oui. Alors, jusqu'à la fin des années 70, l'ufologie se divisait en deux camps un peu irréconciliables. D'un côté, il y avait les partisans de l'origine extraterrestre, des ovnis. De l'autre, les sceptiques qui considéraient que toutes les observations sont plus ou moins explicables par des confusions avec des phénomènes naturels. Mais à partir des années 80, tout s'est compliqué avec l'arrivée dans le champ de la recherche ufologique des psychologues et des sociologues. Est-ce que votre appréhension du phénomène ovni a elle aussi évolué au fil du temps ?
Alors non, elle s'est précisée, mais elle n'a pas évolué. Effectivement, je vais recadrer juste les choses, mais au niveau ufologique, les sceptiques et la branche rationalisante de la science ne font pas partie du milieu ufologique. Oui. Mais effectivement, le milieu ufologique, principalement à partir des années 70-80, est divisé en deux grandes familles. Vous avez la famille ultra majoritaire qui représente 90% au moins, peut-être 95%. Qui est évidemment pour une hypothèse extraterrestre, avec des nuances certes, mais c'est ça. Et puis vous avez 5% de gens qui pensent autrement. Eux ne sont pas pour une hypothèse exogène, donc dont l'origine du phénomène serait extérieure à nous. Ils sont pour une origine endogène, ce qui veut dire que ce serait nous qui produirions ce phénomène à notre insu, bien entendu, inconsciemment. Et donc ce mouvement, c'est là qu'il y a des frictions très très fortes qui sont irréconciliables. Mais il faut reconnaître objectivement que, en fait, quand on creuse un petit peu, les différences sont moins, elles ont été exacerbées ces différences, mais elles sont moins évidentes que cela, parce que en fait tout le monde, tous les gens un peu honnêtes intellectuellement et qui ont fait de la recherche, qui ont réellement travaillé, constate à peu près les mêmes choses sur la base, ça, ok. Après, ce qui change, bien sûr, c'est les interprétations, mais au final, dans les conséquences, ça se rejoint quand même. Donc, la fracture entre les deux familles, si vous voulez, exogène et endogène, n'est pas si forte que ce que les apparences pourraient laisser croire. Alors, bon, j'en profite pour dire ma propre position là-dessus. Depuis ma rencontre avec Aimé Michel en 78, je suis sur un postulat exogène, donc, mais je veille, exactement comme lui, hein, très soigneusement à ce que ça ne devienne pas une doxa, c'est-à-dire une opinion figée, sectaire, excluant tout le reste. Ça, c'est la dernière chose à faire. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui pensent de manière endogène et ça nous gêne pas du tout. On échange ensemble. D'ailleurs, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses parce que le niveau de ces gens-là est généralement très supérieur en termes de diplôme au niveau moyen en ufologie. Donc, on peut avoir des discussions et des approches très, très enrichissantes. Et puis, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas de preuves dans l'absolu. Donc, ces litiges, ces querelles sont tout à fait absurdes, hein, bien entendu. Mais bon, c'est comme ça. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que l'hypothèse extraterrestre elle-même a beaucoup évolué avec le temps. Il y a eu la première hypothèse extraterrestre qu'on appelle, entre guillemets, tôt les boulons, c'est-à-dire que une soucoupe volante, c'est complètement matériel. C'est un engin intergalactique qui descend sur Terre pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, l'hypothèse extraterrestre n'est plus tout à fait celle-ci, elle est plus complexe, non ?
Ah, absolument. L'hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre de type 1, tôt les boulons, qui remonte aux années 50, hein.
Oui.
Y a la certitude qu'elle était fausse dès le départ, à notre insu, bien entendu, mais qu'elle était entièrement fausse. Elle est complètement en dehors de la plaque, hein, là, ça c'est certain. Donc, dans les années 70, vu ce qui s'est passé, on a commencé à essayer de penser à une hypothèse extraterrestre, donc de niveau 2. Qu'est-ce que veut dire un niveau 2 ? Bonne question. Ça veut dire qu'on essaye d'intégrer la complexité qui est arrivée en rafale à partir des années 70, c'était pas du tout ce que l'on croyait, c'était beaucoup plus complexe. Et puis, elle essaye aussi, dans la mesure du possible, parce que c'est très très difficile, de limiter ce que Aimé Michel appelait des projections anthropocentriques. En fait, évidemment, par un réflexe tout à fait naturel, on tend à essayer de comprendre et d'expliquer, ce qui est encore plus grave, l'OVNI à partir de nos propres référents. Et ça, un chercheur, quelqu'un que j'aimais beaucoup, a écrit là-dessus dans un livre sur Aimé Michel, et il a expliqué que c'est un ennemi mortel, effectivement. Donc, l'hypothèse de niveau 2, qu'on appelle aussi exogène aujourd'hui, tente de poser des pansements sur ce genre de plaie, si vous voulez. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile.
Alors, pour aller un peu plus avant dans le domaine, les deux caractéristiques finalement principales du phénomène sont, vous l'avez écrit quelque part, l'élusivité et l'incommensurabilité. Qu'est-ce que c'est ? Ça recouvre quel type de réalité, ces concepts ?
Alors, c'est pas l'incommensurabilité, ça c'est Aimé Michel qui en a parlé, en définissant ce qu'était l'OVNI, d'une manière très très logique et très élégante d'ailleurs. C'est l'intentionnalité et l'élusivité.
Ouais.
Il faut savoir qu'il y a 8 caractéristiques qui sous-tendent ce phénomène, mais ça, il faut faire de la recherche pendant très longtemps pour le savoir, parce que ça n'apparaît pas pour certaines raisons. Ces 8 caractéristiques sont très cohérentes, très liées, et elles ont certaines particularités. 2 d'entre elles sont effectivement le couple intentionnalité-élusivité. Alors, l'intentionnalité, on s'en est aperçu justement dans les années 70, même certains témoins ont réussi à subodorer qu'il y avait peut-être une intentionnalité dans la manifestation. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que toutes les observations rapprochées, on va dire 13% du total hein, des observations, ne se déroulent pas au hasard. Elles sont intentionnelles, c'est une portion de l'espace-temps qui est ciblée avec un ou des témoins à l'intérieur, et le phénomène se produit en fonction de ça. Donc, il n'y a aucun hasard là-dedans, et évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant, parce qu'il faut en tirer les conséquences, et c'est là que la pierre achoppe. Mais l'intentionnalité, je dirais, est une des caractéristiques les plus fortes. Il y en a 8 en tout, 3 ou 4 sont très fortes. Donc l'intentionnalité est très forte. Quant à l'élusivité, c'est la plus forte, c'est la plus puissante. Elle frise les 100%. L'élusivité, alors il y a une définition, hein, elle tient en 2 phrases. Premièrement, c'est la fuite systématique une fois la manifestation effectuée. Bon, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Après tout, on est en République. Hein. Si le phénomène décide de fuir, ça le regarde. Bon, mais il y a une deuxième phrase qui la caractérise, c'est qu'il n'est jamais pris en défaut. Or, ça, c'est pas possible. D'un point de vue statistique et surtout de probabilité, c'est totalement impossible. C'est Aimé Michel qui s'en est aperçu le premier dans les années 75. Et là, on est face à un gros problème, d'autant plus que le témoin sur un cas ne peut pas s'en apercevoir, même un ufologue, hein, vous prenez 10 cas, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. Il faut franchir au minimum la centaine de cas de rencontres approchées pour commencer à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est encore plus difficile parce que cette chose-là, elle heurte de plein fouet toutes nos certitudes scientifiques. Et puis surtout, je dirais, elle est indicible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, il n'y avait pas de mots, on commence à comprendre ce qui se passe, mais il n'y avait pas de mots pour définir cela. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de mots, ni de concepts, ça devient vraiment très difficile. Tout ce que vous pouvez faire, c'est constater.
Oui.
Vous constatez que dans quasiment 100% des cas, ça doit être de l'ordre de 96,6 ou 7, eh bien, le phénomène fuit sans jamais la moindre anicroche, ce qui pose quand même un sacré problème.
Ouais. En fait, le scénario, c'est l'OVNI apparaît quand il veut, où il veut, et à qui il veut, sous la forme qui lui plaît, et il peut même en changer pendant l'apparition si ça lui chante. On a des objets qui deviennent deux, ou deux objets qui deviennent un, qui disparaissent, mais vraiment en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est une maîtrise totale du scénario et de l'espace-temps, c'est ça ?
Oui, Oui, c'est exactement ça. Alors, oui, alors pour en venir au changement de forme, il existe depuis le début. On peut dire, bon, le début pour les ufologues, c'est l'observation de Kenneth Arnold en 1947, mais le phénomène était là bien avant, hein.
Oui.
Depuis le début, on a des témoignages d'objets qui changent de forme devant le témoin, qui rétrécissent avant de partir, qui disparaissent sur place, qui apparaissent sur place aussi. Et là, on rentre dans les grandes, comment dire, dans les grandes illusions un peu ufologiques et qui sont anthropocentriques, bien entendu. L'anthropocentrisme repose sur notre environnement technologique. Une projection anthropocentrique, l'autre nom de cette projection, ça s'appelle la technologie. Voilà. Alors, l'habitude est de prendre dans nos, dans des exemples récents, généralement, une avancée technologique que nous avons fait dans un domaine quelconque et de plaquer ça sur l'OVNI. Mais Aimé Michel était mort de rire quand il constatait ça. Évidemment, vous pouvez essayer pendant 10 000 ans si vous voulez, vous n'obtiendrez rien. Et donc, à un moment, il faut essayer de revoir les choses. J'en avais discuté avec Aimé Michel parce que ça me concernait au premier plan. Par rapport à certaines phrases, à certains raisonnements qu'il a eus. Hein. Pour Aimé Michel, l'OVNI, c'est une hyperphysique. Notez bien qu'il dit une hyperphysique, hein, il ne dit pas une hypertechnologie.
Oui.
Une hyperphysique qui se manifeste ponctuellement dans notre environnement. Très bien. Mais une hyperphysique, au sens laïcisé du terme, c'est aussi une métaphysique. Au sens laïcisé, c'est-à-dire au sens étymologique, pas au sens religieux. Hein.
Oui.
Méta en grec, au-delà de quoi? De notre propre physique. De combien est le décalage évolutif? Nous ne le savons pas. S'il est de 50 ans, on pourrait faire des projections anthropocentriques, bien sûr. Vous envoyez tout ce que vous voulez en l'air, à un moment ça colle, et puis le raccord se fait, et puis ça va. Mais si cette intelligence a 100 000 ans ou 1 million d'années d'avance sur nous, ce qui n'est rien à l'échelle de l'univers. Ben vous pouvez faire ça toute votre vie, vous n'aurez rien du tout. Donc l'OVNI est incommensurable de ce point de vue-là. Il n'est, Aimé Michel a dit, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'est pas capable de le penser.
Ouais.
Et à partir de là, on assiste comme ça à une collection d'absurdités pseudo-scientifiques. Mais le réveil, heureusement, il est un peu décalé dans le temps, mais il peut être très dur, hein. Par exemple, tout le monde s'imagine que les ovnis viennent de l'espace, viennent de l'espace profond même. C'est une des plus grosses erreurs que l'on peut faire. Mais vous interrogez 100 ufologues, vous verrez que une large majorité vous le dira.
Oui, c'est-à-dire que c'est impossible, c'est ce que vous dites finalement.
C'est totalement impossible, bien sûr. Et puis ça cadre pas avec une hyperphysique en plus. Et puis ce serait détecté immédiatement en plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on s'en aperçoit pas, mais ça circule un peu comme parole d'évangile en ufologie, c'est comme ça.
Et votre appréhension donc du phénomène OVNI laisse apparaître une interaction entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. Alors vous n'êtes pas le seul, hein, Jacques
Oui.
Vallée en a parlé, etc. Une interaction qui met donc en lumière la composante psychique du phénomène. Qu'est-ce qu'on entend par composante psychique du phénomène OVNI?
Alors, d'abord, sur un plan général, on peut voir ça d'une manière logique, parce que ça suscite évidemment beaucoup de discussions et puis de controverses, cette histoire-là. Vous ne pouvez pas imaginer une hyperphysique qui se déploie de temps en temps dans notre environnement comme si elle tombait du ciel, pour faire un jeu de mots facile. Nécessairement, elle est liée à l'hyper-intelligence qui l'a mise au point et dont elle est l'aboutissement. D'ailleurs, c'est même idiot de dire d'un côté il y a l'hyperphysique, de l'autre côté il y a une forme d'intelligence derrière. Les deux ne font qu'un, nécessairement. Dès qu'on y réfléchit, ça c'est une évidence. Ensuite, faut-il s'étonner donc que de temps en temps ça transpire, c'est un terme que j'emploie souvent, dans certains cas, toujours pratiquement d'observation rapprochée, ça transpire cette histoire-là. Des phénomènes d'intrication psychique transpirent. Ben, ce serait plutôt le co contraire dont il faudrait s'étonner. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, le problème, évidemment, c'est que Encore une fois, l'OVNI n'a pas le bon goût de se manifester selon nos propres critères anthropocentriques. S'il pouvait nous parler dans un micro, comme nos modernes aviateurs ou cosmonautes, en anglais, en français, ce serait encore mieux. tout irait très bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on observe des choses, pour certaines, totalement incompréhensibles. Moi, j'ai enquêté des cas 40 ans après. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas capable de proposer le moindre début d'explication. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous donner un cas, justement ? Est-ce que vous pouvez nous citer un cas pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit quand on parle de composantes psychiques, par exemple ?
Oui, oui. Alors, sur un plan général, d'abord, je vais vous citer ce cas, mais sur un plan général, il y a le rapport Beyond UFO, au-delà des UFO, qui a été publié il y a 2 ans, avec un énorme outil statistique, comme savent le faire les Américains, sur 4000 cas, on aboutit à un résultat statistique. 60% des RR3 sont porteuses d'intrications psychiques qui sont en fait des effets psy, PSI, hein, c'est-à-dire de phénomènes paranormaux, qui arrivent avant, pendant et surtout après. Voilà, ça fait plaisir ou pas, mais c'est comme ça, ouais. On ne peut que le constater. 60%, ça m'a étonné moi-même, parce que sur mon expérience, je pensais que c'était quand même beaucoup moins, autour de 30%. Bon, là, c'est 60%, d'après ce rapport, qui fait 900 pages. Voilà, ça c'est sur un plan général. Mais ça peut s'expliquer, d'un point de vue exogène, ça peut s'expliquer. Il y a beaucoup plus ennuyeux. Alors, moi, j'ai enquêté sur certains cas, notamment un, c'est le cas du bois des Pranes. Il est dans le livre que vous avez cité, les apparitions mondiales humanoïdes. Je suis d'ailleurs le seul à avoir réellement rencontré le témoin et savoir où ça s'est passé. Ça, le bois des Pranes, c'est un très grand bois désert qui se trouve dans le Haut-Var. Alors, pour vous le dire, je vais aller très vite, hein, je m'excuse, mais voilà, le témoin qui est un commissaire de police, qui est un chasseur, à ses heures, et qui est en plus un militaire hautement décoré, qui a fait preuve d'une bravoure, en Algérie notamment, il a chargé sous la mitraille, une bravoure, comme me disait sa femme, qui frise l'inconscience, hein, va le week-end généralement se reposer dans un cabanon qu'il a acheté dans le bois des Prades. C'est vraiment un cabanon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et il n'est pas armé parce que la chasse, c'était fin août, elle n'était pas encore ouverte à l'époque. Ça s'est passé en août 1976, cette affaire. Alors, le cas, il est réveillé, enfin il n'est pas réveillé, il bouquinait, et puis vers minuit, il entend un hurlement épouvantable qui vient du dehors. Alors il éteint sa bougie, il reste aux aguets. 30 secondes après, le même hurlement épouvantable retentit. Alors, ce coup-ci, l'homme se dresse, il va vers la porte du cabanon, il l'ouvre, et coup de chance, on y voit assez bien parce que c'est la pleine lune. Et il voit à l'orée de la forêt trois petits êtres. Il voit les formes noires, mais il voit tout de suite quand même qu'ils sont petits, dans les 1m10, ils ont des oreilles un peu hautes. L'homme est vraiment, parce que moi, des témoins, j'en ai rencontré, je vous garantis qu'une RR3, ça peut faire parfois très peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il ferme sa porte, il se met une lampe dans la poche, et puis il se met à les pister. Donc, c'est la traque du chasseur, ou la filature du flic, si vous voulez. Et pendant plus d'une heure et demie, en prenant des repères dans la forêt, il va les pister. Parfois, il se rapproche, parfois, il les perd un peu de vue, mais il les rattrape toujours. Au bout d'une heure et demie, il arrive dans un endroit où il y a une ferme complètement désaffectée qui est en ruine et un puits. Les êtres passent par là et il y a une clairière plus loin. Il voit un objet qui est rectangulaire, qui ne touche pas le sol, qui est noir, entièrement noir. Et les êtres s'approchent de cet objet. Donc, notre policier, notre commissaire, là, qu'est-ce qu'il se dit ? Qui ignore la peur, hein ? Alors, évidemment, son cerveau avait travaillé pendant ce temps-là. Il se dit, mais lui, il croyait pas à tout ça. Bon, il se dit, là, je vis quand même quelque chose d'extraordinaire, mais on va jamais me croire. Donc, il faut que je leur fonce dessus et que j'en capture un. Et voilà notre témoin qui était à peu près à 50 mètres hein, derrière. Il avait maintenu cette distance, qui commence à partir en courant comme un fou. pour essayer de tomber sur un des êtres dont un au milieu était blessé visiblement parce qu'il était soutenu par les deux autres. Détail très important. Ouais. Donc, à ce moment-là, les êtres font le tour, tour de l'objet, et lui arrive quasiment sur eux, et à ce moment-là, il y a un éclair gigantesque, et il va se voir tomber sur le côté comme ça. Quand il se relève, il n'y a plus rien. Il voilà perdu au milieu du bois des Pranes. Alors, toute la nuit, il va tenter de retrouver sa route. Bon, finalement, le matin, vers 6 heures, il va y arriver, il va recouper la nationale, il va prendre 2 heures de sommeil, et il va repartir tout de suite. C'est important parce qu'il veut vérifier s'il y a des traces dans la clairière. Donc, il va repartir à partir des repères qu'il a pris dans la nuit. Il va tous les retrouver pendant 1h30. Il va aller à la ferme. Il va aller là où ça s'est passé. Et l'herbe est très sèche. Le terrain est très sec en cette période dans le Haut-Var. Donc, il n'y avait rien. Donc, il est rentré très, très, très déçu de ne pas avoir réussi à en capturer un.
Voilà, vous en saurez davantage sur ce cas extraordinaire en écoutant la suite de l'entretien qu'Éric Zurcher nous a accordé. Ce sera dans 4 semaines, lors de la prochaine édition des Témoins de l'Invisible. Cette première partie que vous venez d'écouter, vous pourrez la réécouter, je vous engage à le faire parce que c'est assez complexe, sur notre site en podcast www.radiorentiel.fr, les Témoins de l'Invisible. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Rentiel.